L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Washington DC, au cœur du pays de l'oncle Sam. Depuis 1789, un bâtiment immaculé, intemporel, célèbre dans le monde entier, trône sur la vie démocratique américaine. En cette fin de millénaire, le Sénat a déjà en tête l'élection qui va avoir lieu dans quelques mois à la Chambre des représentants. 435 sièges renouvelés, de quoi marquer la suite du mandat du président Clinton. L'homme le plus puissant du monde se retrouve au cœur d'un scandale, l'affaire Lewinsky. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les affaires sentimentales du président qui occupent les sénateurs. La commission agriculture, nutrition et sylviculture reçoit un opérateur informatique, Peter De Jager. Chemise rayée, cravate pleine d'horloges pour rappeler le temps qui passe, l'homme est devenu célèbre depuis quelques années dans tout le continent nord-américain. Et pour cause, c'est lui qui a prédit le prochain point de bascule de l'histoire humaine. Le bug de l'an 2000. Un bug qui va provoquer une véritable catastrophe à l'échelle planétaire. Si rien n'est fait. La cravate pleine d'horloges de Peter De Jager est là pour le rappeler. Bientôt, il sera trop tard. Nous sommes le 14 mai 1998. Il est à peine plus de 11 heures et c'est l'heure H de mon histoire. Le sénateur qui préside la commission accueille son hôte sans grand sourire. Le ministère de l'Agriculture américain doit agir sans attendre. Ses systèmes informatiques ne sont pas prêts pour le choc à venir. Nous recevons Monsieur De Jager aujourd'hui afin qu'il nous explique l'importance de revoir l'ensemble de nos systèmes. Le gaillard à la cravate bizarre n'a rien d'un illuminé. Opérateur chez IBM, il a pointé du doigt le souci à venir dès les années 70. Personne ne l'a écouté à l'époque. Et aujourd'hui, l'ombre qui plane sur l'humanité interconnectée et dépendante des ordinateurs est sur le point de tout faire valser. En 1993, dans un article devenu viral et populaire dans le monde entier, voici ce qu'il écrivait. « L'informatique devait être une bénédiction. Ce que nous avons transmis au monde est en réalité une catastrophe énorme. » Sa parole est donc attendue. Le sujet du bug est encore mal connu. Pourtant, le temps presse. L'homme s'éclaircit la voix et captive l'assistance en un instant. La plupart des programmes informatiques du monde sont codés pour lire les années avec deux chiffres au lieu de quatre, donc 93 au lieu de 1993. Le raccourci a été conçu pour économiser un espace mémoire limité au début de l'informatique. Et cela avait du sens à l'époque. Mais lorsque la date dépasse le 1er janvier 2000, beaucoup de logiciels deviennent confus. Visiblement, ils penseraient que nous sommes en 1900. Mais le spécialiste ne s'arrête pas là. À l'heure actuelle, le plus gros problème est le fait que personne ne semble prendre au sérieux une menace qui va exploser la face du monde dans moins de 2 ans. Seuls 9% des entreprises canadiennes avaient développé en 1997 un plan d'action contre la menace de l'an 2000. J'estime que pour beaucoup des structures qui n'ont pas pris le souci au sérieux, il est déjà trop tard. Au niveau fédéral canadien, le processus n'est terminé qu'à hauteur de 16%. Le pays a prévu une enveloppe d'$1 milliard pour mener à bien les transformations. C'est bien trop peu. L'expert est-il trop alarmiste? Les sénateurs le prennent très au sérieux. Après tout, il fait le tour du monde depuis le début de l'année, invité au Forum économique mondial et au sein de plein d'autres institutions. Il y a 2 ans, il a alerté sur le sujet ici, au Sénat américain et à la Chambre des représentants du Canada. Depuis, on le prend très très au sérieux dans le cercle du pouvoir mondial. C'est la plus grande histoire de l'humanité, à l'exception de la guerre mondiale. Que penser de ces alertes? L'humanité est-elle sur le point de tout perdre? Faute d'avoir trop fait confiance au système informatique programmé. Le Doomsday, que d'aucuns rangeaient parmi les fables, est-il au seuil de notre porte? Peter de Jager n'est pas le seul à le croire. Pire, un courant de panique généralisé pourrait bien transformer les sociétés occidentales pour toujours. Nous sommes en 1977, dans les locaux de la firme IBM, l'une des pionnières du marché florissant de l'informatique. Aujourd'hui, un nouvel opérateur, âgé de 22 ans, connaît ses premiers pas dans l'entreprise. Son nom, oh, vous l'avez deviné, Peter de Jager. Une grosse paire de lunettes vissées sur le nez, une cravate de travers et une chemise qui sort à moitié de son pantalon. Il est stressé. Rien de plus normal pour un premier jour de travail. Peter prend ses marques en douceur. Mais une fois installé à son poste, il note déjà une anomalie qui l'interpelle. Tous les systèmes de l'entreprise utilisent des années à deux chiffres. Ce qui semble ne soucier personne. Sauf lui. D'emblée, le jeune homme comprend que cela pourrait provoquer un problème immense d'ici quelques décennies. Si l'année 1999 est simplement ramenée à 99, alors 2000 deviendra l'an zéro. De Jager n'a pas terminé sa première matinée de travail qu'il demande un entretien à sa direction. Cette observation doit être absolument communiquée à la hiérarchie. Il faut faire quelque chose, et vite. Mais les patrons d'IBM vont se montrer circonspects. Non, t'en fais pas. Ça n'arrivera pas avant 23 ans. Alors détends-toi, on a tout le temps d'y penser. Le nouvel opérateur acquiesce. Il se mure dans le silence et laisse le temps faire son œuvre. Bientôt, la problématique lui sort de l'esprit. Un an passe, puis 5, puis 10, puis 15. Personne ne semble prendre le souci à bras-le-corps dans l'entreprise. Peter de Jager, lui, va se rappeler au bon souvenir du bug potentiel à venir. Face au dilettantisme de sa direction, il provoque le destin et n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Bientôt, il se retrouvera devant le Congrès américain et le Parlement canadien. Dès lors, la psychose d'un plantage planétaire va devenir mondiale. Les choses vont bouger à la fin des années 80. Une émission télé, Connections, entraîne chez De Jager une profonde remise en question. Le programme futuriste évoque un scénario catastrophe, basé sur le principe d'une réaction en chaîne. Ce scénario ressemble étrangement à ses pires cauchemars concernant le bug à venir. Peter de Jager alerte à nouveau ses supérieurs. Mais face au manque de réaction de sa hiérarchie, il sort du bois et provoque une véritable déflagration. Au sein du Computer World Magazine, il publie en 1993 un papier de 3 pages intitulé « Doomsday 2000 », le jour du jugement dernier 2000. Ouais, rien que ça. La théorie qu'il y développe est on ne peut plus claire. Et loin d'être assurante. Cette crise est bien réelle et elle pourrait devenir très coûteuse. Dans les colonnes du Times, De Jager va plus loin. Nous ne savons pas à l'avance ce qui tombera en panne, donc il vaut mieux tout réparer maintenant. La marche vers l'omniprésence de l'informatique est réelle et s'exprime au quotidien. En 1996, le président Bill Clinton annonce l'installation de 1800 km de câbles informatiques pour la seule Californie. Le progrès est exponentiel. L'Amérique et le monde connaissent le développement des premiers chats vidéo pour la population civile et une connexion liant images et sons est possible. Des techniques réservées depuis des années aux plus hautes sphères gouvernementales se démocratisent. Elles prennent une place centrale dans le quotidien de toute la population du monde occidental. Le monde de demain s'ouvre véritablement via une cyberculture qui s'annonce ultra dominante. Tout ceci est incarné par des figures telles que Bill Gates ou Jeff Bezos. Pour la plupart des gens, les conséquences d'un bug informatique paraissent aussi imperceptibles qu'incompréhensibles. L'inquiétude face à cet allié informatique qui pourrait devenir un ennemi mortel gagne le monde occidental dans son ensemble. Dès 1996 et 1997, de nombreux reportages tentent d'éveiller les consciences. Et le royaume de Belgique ne va pas faire longtemps exception. Printemps 1998, journal parlé de la première. Tom Goldschmidt connaît les installations de la RTBF comme sa poche. Plus qu'un visage, il est une voix connue de bien des Belges. Déjà dans les années 70, c'est lui qui allait interviewer les Rolling Stones à Amsterdam. C'est pas rien tout de même. Mais le rock britannique n'est pas le sujet sur la table ce soir. Le journaliste vient parler d'une thématique dont on craint de plus en plus les répercussions. Le bug de l'an 2000. Le tout sur base d'un constat clair. La psychose bien réelle doit être comprise et expliquée. Ce à quoi s'attelle Goldschmidt?
Le bug, le problème de l'an 2000 n'est pas une marotte de savant fou. Et fou, beaucoup d'ordinateurs et de services informatiques risquent de le devenir pendant le réveillon de l'an 2000. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir quelques années en arrière, à l'époque où les ressources de l'intelligence informatique étaient beaucoup plus rares et plus chères que maintenant. Pour les épargner, on a pris alors l'habitude de rentrer les dates sous forme de deux chiffres seulement. 86 au lieu de 1986, par exemple. On réalisait une économie à court terme, et pour le long terme, on verrait bien.
Mais le voilà, le cœur du problème. L'époque du long terme est arrivée plus tôt que certains pouvaient le penser. Ce que le journaliste ne manque pas de souligner.
Or, aujourd'hui, beaucoup d'ordinateurs et de programmes fonctionnent toujours sur cette base. Oui, mais dans tous les programmes, dans toutes les machines où les dates sont écrites en deux chiffres, par exemple 9 et 8, 98, pour 1998, eh bien, le 1er janvier 2000, la date deviendra 00. Et comme 00, c'est moins que 99, l'ordinateur va tirer des conclusions absurdes. Pour lui, nous serons en l'an 0. Si votre date de naissance est 1945, donc pour lui 45, l'ordinateur en conclura que vous ne naîtrez que dans 45 ans et qu'actuellement vous n'existez pas.
Comment rembourser les soins de santé d'un patient qui n'est pas encore né pour la machine? Comment lui payer sa pension ou son chômage? Ah, l'enjeu est gigantesque. Tom Goldschmidt se charge d'enfoncer le clou.
Beaucoup d'entreprises et d'administrations se trouvent dès lors devant un casse-tête. Comment terminer le millénaire sans catastrophe? Et d'autres firmes gagnent des fortunes en vendant aux premières des solutions, des modifications de système qui permettront de passer le cap 2000 sereinement.
Et l'addition dans tout ça? Là aussi, Goldschmidt avance ses pions, sans embâge.
On parle de frais au total pour plusieurs centaines de milliards de dollars.
Rien que ça. Cette inquiétude belge est loin d'être la seule à s'exprimer. Dans le monde entier, des voix s'élèvent et rejoignent les premières inquiétudes exprimées par Peter de Jager. Face à l'abîme qui vient, les ingénieurs et scientifiques concernés par la question décident de prendre le problème à bras-le-corps. Ils n'ont qu'un but, tout faire pour éviter une panne mondiale qui pourrait conduire à la fin des temps. Le bug de l'an 2000 est donc sur le point de frapper l'humanité à cause d'une simple obsolescence, un défaut inscrit dans les processeurs informatiques. Si les premiers ordinateurs à usage personnel sont arrivés sur le marché en 1981 via la société IBM, bien des machines du genre garnissaient le monde professionnel des décennies plus tôt. À la fin des années 60, plus de 40 000 ordinateurs servent à accompagner le développement de l'activité humaine dans le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au milieu des années 90, tout ou presque dépend déjà d'une technologie qui ne cesse de se perfectionner. Les machines soutiennent une activité humaine qui ne cesse d'aller toujours plus vite. Elles sont devenues indispensables. Des aéroports aux feux tricolores en passant par les satellites. L'informatique est devenue en un rien de temps une compagne de tous les jours pour l'humanité. La crainte devenue virale est celle d'un crash énorme, économique et social, au moment du passage décisif vers le nouveau millénaire. Et si à cause de processeurs incapables de fonctionner, tous les ordinateurs de la planète venaient à s'arrêter au même moment, à minuit et une seconde, le 1er janvier 2000, ça vous paraît dingue? Il n'en est rien. Une peur bleue, un sentiment de sinistrose s'impose dans les différentes sociétés occidentales. Une telle catastrophe pourrait entraîner des répercussions terribles. Crash d'avion, incident nucléaire, certains n'hésitent pas à parler d'un retour à l'âge de pierre. La parole de l'opérateur d'IBM, destiné au grand public, provoque bien des remous. Partout, c'est la même idée tenace qui s'impose. Il faut régler le problème et tout mettre en œuvre pour que le bug de l'an 2000 ne devienne qu'un lointain souvenir. Novembre 1998, la date fatidique du passage au nouveau millénaire approche. Pierre Istas, journaliste à la RTBF, est l'un des spécialistes qui consacre son travail aux bugs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est inquiet. Le souci informatique, qui risque d'engloutir des pans entiers de l'économie mondiale, ne va pas laisser le royaume hors d'atteinte. De nombreux secteurs ne sont pas prêts, n'ont pas encore reconfiguré leur système. Le risque, se retrouver balancé en l'an zéro et tout perdre. Ce qui n'est pas à prendre à la légère. En conséquence, il faut continuer d'alerter la population. Istas est donc sur le plateau du journal Parler avec l'espoir de mobiliser l'opinion. En Belgique, le problème n'est pas lié à une affaire de volonté. Non, le truc, c'est qu'il n'y a plus assez d'informaticiens sur le marché. On assiste à une pénurie totale. C'est tellement le cas qu'au printemps, IBM s'est associé avec le Forem pour former en quelques semaines seulement de nouveaux professionnels venus de tous les horizons. Hélas, ce n'est pas suffisant. Ce soir, le journaliste se charge de tirer la sonnette d'alarme.
Le monde informatisé vit sous une menace constante, le bug de l'an 2000. Tous les ordinateurs vont-ils pédaler dans la choucroute parce que de 99, ils passeront en 00 et non en 2000? La question est cruciale et bien connue, mais à 14 mois du jour fatal, l'INSEA, l'Association des informaticiens, lance un sérieux cri d'alarme.
On peut dire que plus de 50% des PME en Belgique ne sont même pas conscientes de l'impact que la problématique 2000, par exemple, peut avoir sur leur organisation. Aujourd'hui, au minimum, il nous manque 5000 informaticiens en Belgique.
Et le journaliste de conclure, l'an 2000, c'est dans 419 jours. Cette fois, le compte à rebours est définitivement lancé. Aux États-Unis, personne ne prend le problème à la légère. Une blague célèbre circule dès 1998 dans tous les milieux concernés. Imaginez que vous deviez remplacer tous les boulons du Brooklyn Bridge. C'est colossal, mais faisable. Imaginez maintenant que vous deviez changer tous les boulons des ponts du monde entier et que vous ayez seulement 21 mois pour le faire. Colossal, ouais. Voilà le mot qui convient le mieux pour qualifier cette course contre la montre. En Belgique aussi, on s'active sans attendre. À l'échelle nationale, on estime qu'il faudra débourser près de 240 milliards de francs belges, soit près de 6 milliards d'euros, pour régler le problème du délire. Quant à Peter de Jager, il court la planète pour continuer d'alerter les uns et les autres. Son site internet génère au crépuscule de l'année 1998 près de 600 000 visites d'internautes par mois, ce qui en fait le plus consulté dans le monde pour l'époque. Dans ce dossier, Internet devient une véritable source de prise de conscience face aux problèmes à venir. Pour la première fois, le réseau s'exprime à plein. Le président Clinton nomme à la tête du projet 2000 le Y2K, John Koskinen, un ancien de Duke et de Yale. Le sigle Y2K passe à la postérité. Il est toujours couramment utilisé aujourd'hui. Les Américains lancent d'énormes tests afin de tenter d'anticiper tous les scénarios catastrophes. On se rend compte que tout est déjà informatisé, des distributeurs de billets aux pompes à essence. Pire encore, les missiles sont aussi reliés à des systèmes informatiques, tout comme les rames de métro ou les radars des avions. Si un de ces systèmes vient à bugger, la réaction en chaîne sera monumentale. Pitch Bottom, un centre nucléaire américain, connaît un souci majeur lorsque les équipes tentent de modifier les systèmes de datation. Aussitôt, après avoir fait la manipulation, toutes les machines tombent en rade. Il faut près de 8 heures pour remettre le système en marche. L'ampleur du problème se mondialise. L'inquiétude aussi. Des milliers d'emplois et la survie de grosses boîtes sont en jeu. C'est notamment le cas d'Electrabel, l'entreprise qui monopolise le secteur de l'électricité et de l'énergie en Belgique. Une défaillance de sa part lors du passage au nouveau millénaire et c'est le drame. Alors, pour l'éviter, la firme se lance dans un énorme plan de bataille qui va occuper des centaines et des centaines de personnes. Le tout avec l'espoir d'être prêt à temps. Ce qui, au début de l'année 1999, est loin d'être gagné. C'est tellement le cas que la centrale nucléaire de Tihange 1 est mise en isotage en prévision du réveillon. Un représentant d'Electrabel explique cette mesure de précaution.
C'est-à-dire qu'on va isoler la centrale de Tihange 1 du reste du réseau électrique de l'infrastructure. Mais elle fonctionnera. C'est donc une unité qui va fonctionner en puissance réduite, déconnectée totalement du réseau, et l'électricité qu'elle produira, elle la consommera, elle auto-consommera, si vous voulez, son électricité. Alors, la problématique, c'est que ces changements de consommation soient concentrés dans un laps de temps relativement court et nous mettent dans une situation où nos centrales ont du mal à suivre. Donc, pour ce faire, nous avons décidé, plutôt que d'avoir un nombre restreint de centrales électriques qui fonctionnent pour répondre à la faible consommation d'une nuit de réveillon, nous avons demandé à toutes nos centrales de fonctionner, mais à des régimes de puissance réduits.
Autre secteur en première ligne, le médical et l'hospitalier. De nombreux dispositifs contenant des processeurs et des logiciels pourraient être concernés par un potentiel bug. La charge de travail pour sécuriser cet ensemble est aussi gigantesque. Un seul mot d'ordre, se prémunir au maximum. Des procédures sont mises en place, mais pas assez. Et pas dans tous les secteurs, comme le craint le spécialiste Michel Duvivier, invité de Matin Première.
Absolument, le problème est mondial. Ça veut dire que tous les ordinateurs, au même moment, à la même date, se devront de réagir convenablement. Alors les conséquences, elles, sont beaucoup plus complexes et difficiles. Je crois que le problème se pose beaucoup plus aujourd'hui, c'est dans des secteurs moyens ou dans des petites organisations, telles que, par exemple, le secteur hospitalier, tels que par exemple les PME.
Qui sont des secteurs qui ne se préparent pas de la même manière que les grands secteurs, qui n'ont peut-être pas les moyens de le faire, c'est un peu ça le problème?
Voilà, malheureusement, toutes les enquêtes déterminent aujourd'hui que dans les PME, encore un grand pourcentage d'organisations n'ont pas pris en main le problème, n'ont pas pris conscience, ni pris en main le problème. Bon, je suis persuadé qu'il y aura des problèmes.
Par exemple
des sociétés qui ne pourront plus fonctionner. Et donc là, on va arriver devant une autre problématique, qui est le problème domino. C'est-à-dire qu'une société qui ne peut plus fonctionner, qui va ne plus pouvoir rendre son service ou livrer sa marchandise, va mettre en péril la chaîne économique qui suit.
Les semaines passent et un constat s'impose. Un certain dilettantisme entraîne du retard à tous les étages. En conséquence, la SNCB annonce carrément interrompre son trafic le 31 décembre. Raison de sécurité, là encore. Elle est suivie de près par la Sabena qui suspend ses vols. Un vol test aura tout de même lieu à 2h du matin, sans voyageur civil. La psychose est réelle. Elle circule partout. Alors que l'alerte est donnée depuis plusieurs années, ce n'est véritablement qu'au début de l'année 1999 que l'opinion comprend véritablement l'urgence. Les marchands de peur s'en donnent à cœur joie. Certains annoncent une rupture brutale du progrès, un retour en arrière de plusieurs siècles. D'autres parlent de guerre civile, de chaos, de révolution. L'alarmisme nourrit les craintes. Les craintes nourrissent les supputations les plus extrêmes. Aux États-Unis, il n'est pas rare de voir des groupes de parole se développer sur la question, alors que les interrogations autour du bug ne cessent d'être toujours plus nombreuses, toujours plus diverses. On fait ses réserves. On redéveloppe un esprit communautaire devenu désuet depuis longtemps. Au-delà de la technologie, le souci prend des proportions sociétales et sociologiques. Des sondages d'opinion montrent qu'au pays de l'oncle Sam, 6 personnes sur 10 sont apeurées par le changement d'année. Le chiffre ne fait qu'augmenter mois après mois en 1999. Ce phénomène est tout à fait explicable. Le flot d'informations, de reportages télé, d'émissions spéciales ne cesse d'augmenter. Chaque fois, la même issue. On ne sait pas ce qui va se passer. Protégez-vous. Dans le monde entier, la population se braque de plus en plus face au spectre de l'échéance qui vient. En Belgique, au début du mois de décembre, le Premier ministre, Guy Verhofstadt, aux manettes depuis peu, prend la parole publiquement sur le sujet. Il se veut rassurant et annonce la création d'une messagerie internationale.
Il y a la chambre de messagerie internationale qui est en contact direct avec l'ONU. Et via le website et donc aussi avec le site de l'Union européenne et de toutes les ambassades, surtout en Extrême-Orient. Et cette chambre de messagerie internationale est très importante, puisque cette chambre-là va recevoir toutes les données, toutes les informations des pays qui tombent plus vite que nous dans l'année 2000. Par exemple, la Nouvelle-Zélande commence, c'est le premier pays, qui déjà 11 heures avant la Belgique entre dans l'année 2000.
Une centrale d'appel sera également accessible.
Le call center, c'est justement pour informer la population sur ce qu'elle peut entreprendre si jamais il y a un ennui quelconque, qui n'est pas une catastrophe ou un accident majeur. À ce moment-là, la population ne doit pas téléphoner au numéro 100 ou au numéro 101. C'est un call center qui peut s'adresser pour avoir des explications sur qui ils peuvent atteindre dans tel ou tel genre de problème.
Les Belges vont aussi recevoir un livret. Le document leur conseille de ne pas téléphoner à minuit, d'éteindre les ordinateurs et de ne pas prendre des ascenseurs. Le pays a pris ses dispositions. Son centre de crise dédié aux bugs est sur le pied de guerre, comme toute une partie du monde. La nation belge retient son souffle. Le 31 décembre 1999, dans les locaux de la RTBF. Le Y2K est à portée de tir. L'audiovisuel public a tout prévu. En cas de décrochage du réseau une fois passé minuit, la RTBF pourra continuer d'émettre sans problème. Depuis des mois, une multitude de scénarios catastrophes a couvert l'actualité mondiale. Face à la crainte de voir des avions tomber en plein vol, de nombreuses compagnies, dont la Sabena, ont cloué leurs appareils au sol. Partout, dans tous les secteurs, on a pris des précautions. Des années de préparation pour que ce moment enfin se concrétise. Ce n'est pas que la Belgique qui retient son souffle, c'est le monde entier. Claude Delacroix, directeur de la première, explique à l'antenne l'ampleur du dispositif visant à couvrir la soirée attendue avec angoisse et appréhension.
Le ministère de l'Intérieur a mis en place une cellule de crise et a demandé à la RTBF Service Public de bien vouloir être le relais si jamais il se passait quelque chose. Et dès lors, avec les services techniques, avec les rédactions et avec le service des émetteurs, je pense que nous avons pensé, je l'espère, que nous avons pensé à tout. Ça va d'une génératrice, d'un studio qu'on a mis à l'extérieur, des émetteurs que nous avons sécurisés. Bref, je pense que tout est en ordre pour passer sans difficulté le cap de 1999 à 2000.
Le service public a prévu le coup. De là à dire que le passage d'un millénaire à l'autre va se faire sans encombre, il est trop tôt. D'ailleurs, toute la soirée, une voix off va se charger de répéter les consignes de sécurité qui donnent un avant-goût de fin du monde.
Toute la nuit, donc, des journaux à l'heure, et s'il devait y avoir des problèmes d'alimentation électrique, eh bien, des groupes électrogènes de secours sont en place à la RTBF, tant pour les studios que pour les émetteurs. De votre côté, chez vous, pour être informé, même en cas de panne d'électricité, deux solutions. Soit vous branchez votre transistor à pile, soit vous écoutez via votre autoradio. De cette façon, et en toutes circonstances, où que vous habitiez en communauté française, vous pourrez capter la première.
La soirée de la Saint-Sylvestre bat son plein. À de nombreux endroits, l'ambiance festive se teinte d'une inquiétude bien légitime. Des années qu'on parle de ce bug à venir. Des années qu'on entend ici et là que tout le monde n'est pas prêt. Pour la première fois, la RTBF a décidé de maintenir une émission spéciale en direct jusqu'à 4 heures du matin. Les heures passent et le stress ne cesse de monter d'un cran. Bientôt, enfin, vient le décompte. 3, 2, 1. Les regards inquiets s'échangent, guettent les signes d'un effondrement mondial. Il n'en est rien. L'atomium continue de scintiller dans la nuit bruxelloise. Les feux tricolores ne sont pas perturbés dans leur immuable mission. Le troisième millénaire s'ouvre. Et alors qu'on craignait l'apocalypse, eh bien surprise, rien. Rien n'a changé. Le monde occidental, celui qui repose le plus sur l'appui informatique et la technologie, ne s'est pas crashé. Alors coup de bol? Alarmisme qui n'avait pas lieu d'être? Les choses sont un petit peu plus complexes que ça. Pas de suspense, évidemment. Le passage au nouveau millénaire s'est fait sans encombre. Aucune panne majeure signalée, pas de mouvement de panique général. Pour autant, il ne faut pas imaginer que cela s'est fait d'un claquement de doigts. Pas de place au hasard dans tout ce processus. Le crash a bel et bien été évité grâce à une colossale politique d'investissement à bien des étages de la pyramide technologique. Au niveau mondial, le coût s'est chiffré en milliers de milliards de dollars. La prévention mise en place dans tous les secteurs témoigne d'un inconfort et d'une peur bleue, celle de tout perdre. Le non-événement du bug de l'an 2000 aurait pu provoquer un raz-de-marée en Belgique comme ailleurs. C'est une énorme politique de solidarité et de préparation qui a permis d'éviter le pire. Le Premier ministre Guy Verhofstadt et la ministre de la Santé publique dressent le bilan lors d'une conférence de presse le 1er janvier 2000.
Je veux en tout cas remercier tous les milliers de gens dans les différentes entreprises publiques, dans l'État, dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la protection civile, dans toutes les administrations qui ont travaillé pendant 2 ans à la préparation de ce Millennium Bug.
Je dois vous dire que, surtout en tant que responsable de la santé publique, les hôpitaux qui sont quand même un secteur très fragile, etc., je me disais, comment est-ce que ça va fonctionner? Espérons qu'il n'y ait pas de panne d'électricité, parce que là, tout de suite, hein, beaucoup de machines ne fonctionnent plus. Mais dès la première seconde, on voyait que la lumière continuait à briller. Donc non, c'était une belle expérience.
Et Peter de Jager dans tout ça, me direz-vous? L'opérateur d'IBM est devenu une véritable star, écumant les plateaux télé avec des cravates sur le thème du jugement dernier et des prophéties toujours plus alarmistes. Son site internet devient une boutique énorme pour celles et ceux qui veulent faire face à la fin du monde. Profiteur de guerre, le spécialiste en informatique? Oh, il le nie. Pourtant, il devient riche et célèbre. C'est tellement le cas qu'après le passage au nouveau millénaire, le mania du Y2K va vendre son site internet pour une montagne de dollars. Face à lui, le gouvernement et John Koskinen ont tenté de rassurer les gens sur la capacité du système informatique mondial à faire face aux risques dès le milieu d'année 1999. D'ailleurs, alors que l'échéance se rapproche, Peter de Jager va revoir sa position. Bientôt, il prône le calme, annonçant que tout ira bien. Il se congratule d'avoir attiré le faisceau de l'attention populaire sur le problème du Y2K. Ouais, il n'empêche. Comme le rappelle le journaliste canadien Eric Andrewji, M. de Jager a embrassé le rôle de gourou du millénaire. Ses honoraires pour les conférences et les retraites d'entreprise atteignaient les 10 000 dollars par discours. Sa femme a commencé à suivre les interviews quotidiennes des médias dans un tableau Excel. Il a posé une plaque personnalisée Y2K sur sa Ford Explorer et portait souvent une cravate ornée d'images d'horloge pour mieux transmettre le message. Le temps presse. Au sujet du prédicateur, le journaliste canadien ajoute « Pour M. de Jager, le mauvais rêve a commencé le 1er janvier 2000. On devrait tous se sentir un peu idiot ce matin », lui demanda un journaliste peu après le changement de date. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vu de problème ? Vous savez, je fais des interviews toute la journée et on me pose sans cesse les mêmes questions. Et c'est une approche plutôt ridicule. Du point de vue de M. de Jager, il ne s'était pas trompé. Les entreprises et les gouvernements avaient fait ce qu'il leur avait demandé. Leurs efforts étaient la raison pour laquelle les étincelles ne s'envolaient pas dans l'économie mondiale. Ce n'était pas la preuve d'un canular, mais d'une mission accomplie. Pratiquement personne n'était convaincu. C'est QFD. Parfois, la peur prend des contours d'irrationalité. C'est aussi ce qui s'est passé à la fin des années 90. Profitant de cela, des mouvements sectaires et religieux n'hésitent pas à se saisir du problème pour tenter d'agréger à eux des esprits en quête de réponses. C'est pas pour rien si, en prévision de l'événement, les achats d'armes ont augmenté de plus de 20% aux États-Unis. La crainte autour du phénomène est aussi devenue culturelle. La fin des années 90 marque un véritable boom dans la production de films de science-fiction aux tendances catastrophistes. Le plus marquant d'entre eux, Matrix, qui sort dans les salles en 1999. Aujourd'hui, cet épisode nous paraît presque amusant, mais son souvenir continue de hanter celles et ceux qui l'ont vécu. Entre les craintes de débrayages technologiques massifs, des crashs d'avions ou des pannes des installations nucléaires, il y avait de quoi appréhender le moment. Fort heureusement, plus de peur que de mal. Mais si vous pensiez que nous sommes sortis d'affaire, là vous vous trompez. Ah oui, la prochaine étape arrive. Et elle est toute proche. Le bug de l'an 2038, ou Y-2038, va entrer en action le 19 janvier 2038 à 3h14 et 8 secondes. Pourquoi ? Tous les logiciels qui utilisent la représentation POSIX du temps, ceux des clés USB aux cartes flash, vont se retrouver propulsés en 1901, déclenchant les mêmes problématiques que lors du passage au nouveau millénaire. D'ici quelques années, la charge de travail s'annonce donc absolument considérable afin de limiter la casse. Les historiens ne disent-ils pas que l'histoire est un cercle immuable qui se répète sans cesse ? C'est à croire que dans le milieu de l'informatique, la même constante s'applique. Enfin, pour le moment du moins. Voilà pour ce récit que j'ai partagé avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.